Livre 8, Soleil couchant et Soleil levant. Chapitre 1er. La généreuse impétuosité avec laquelle Dorothée s'était élancée sur l'heure à la tâche de justifier Lydgate subit un mélancolique arrêt quand elle en vint à considérer les circonstances à la lumière de l'expérience de M. Fairbrother. C'est une entreprise délicate, lui dit-il. Comment pouvons-nous commencer nos informations sur l'affaire? Ce sera ou publiquement, en mettant la justice à l'œuvre, ou bien secrètement, en interrogeant Lydgate. Dans le premier cas, il ne se trouve pas de terrain solide pour y marcher, sans quoi Hawley s'y fut mis. Et quant à aborder le sujet avec Lydgate, j'avoue que je reculerai devant la tentative. Il y verrait probablement une mortelle injure. Il est extrêmement difficile, j'en ai fait plus d'une fois l'épreuve, de lui parler d'affaires personnelles. Il faudrait connaître à l'avance la vérité sur sa conduite pour se sentir bien assuré d'un bon résultat. Je suis convaincu que sa conduite n'a pas été coupable. Les gens, je crois, valent toujours mieux que leurs voisins ne le pensent, dit Dorothée. Elle devait à la dure expérience qu'elle en avait faite ces deux dernières années une forte tendance à s'élever contre toute interprétation défavorable de la conduite d'autrui. Et pour la première fois, elle se sentit un peu mécontente de M. Fairbrother. Elle n'aimait pas cette prudence à peser toutes les conséquences, là où elle n'aurait voulu que foi ardente dans les efforts de la justice et de la pitié, et dans le triomphe de leurs forces communicatives. Deux jours plus tard, elle l'avait à dîner au manoir avec son oncle et les Chatham, et quand le dessert, auquel personne ne touchait, fut sur la table, quand les domestiques eurent quitté la salle, et que M. Brooke s'assoupit pour commencer sa sieste, elle reprit le sujet avec une certaine vivacité. M. Lydgate comprendrait que si ses amis entendaient énoncer une calomnie sur son compte, leur désir dut être avant tout de le justifier. À quoi bon vivre, si ce n'est pas pour nous rendre la vie plus facile les uns aux autres? Je ne puis être indifférente aux peines d'un homme qui m'a conseillé dans ma peine et soigné dans ma maladie. Il n'y avait pas dans le ton et dans les manières de Dorothée moins d'énergie qu'il n'y en avait déjà 3 ans auparavant, lorsqu'elle présidait encore la table de son oncle, et depuis lors son expérience lui avait donné plus de droit d'exprimer son opinion arrêtée. Mais Sir James Chatham n'était plus le soupirant timide et toujours prêt à s'incliner d'autrefois. C'était le beau-frère, plein de sollicitude avec une pieuse admiration pour sa sœur, mais aussi avec une crainte constante de la voir retomber sous quelque nouvelle illusion, presque aussi fâcheuse que celle d'épouser Casaubon. Quand il répondait précisément, ce n'était plus avec le même sourire qu'autrefois, aux anciens jours de soumission avant son mariage. C'était souvent maintenant comme une préface à un avis différent. Et Dorothée s'apercevait, à sa grande surprise, qu'elle devait prendre la résolution de ne pas avoir peur de lui, d'autant plus qu'il était réellement son meilleur ami. Dans le cas présent, il ne se trouva pas d'accord avec elle. « Mais, Dorothée, dit-il d'un ton de remontrance, vous ne pouvez pas entreprendre de diriger ainsi la conduite d'un homme en son lieu et place. Lydgate doit savoir, ou du moins il en viendra bientôt à savoir, où il en est. S'il peut se disculper, il le fera. C'est à lui d'agir pour lui-même. » « Je trouve que ses amis doivent attendre qu'une occasion se présente, » ajouta M. Fairbrother. « Il n'est pas impossible que le fait soit vrai. J'ai souvent senti tant de faiblesse en moi-même que je puis concevoir un homme, même d'un caractère honorable, tel que j'ai toujours connu Lydgate, succombant à une tentation comme celle d'accepter de l'argent, qui lui était plus ou moins indirectement offert, comme prix de son silence sur des faits scandaleux d'ancienne date. » Je dis que je puis le concevoir, s'il se trouvait alors sous l'étreinte poignante de circonstances particulières. S'il était à bout, en un mot, comme était Lydgate, j'en suis certain. Je ne croirais rien de pire sur son compte avant d'en avoir la preuve rigoureuse. Mais la terrible Némésis est là, qui, pour quelques erreurs, vous poursuit de telle sorte qu'il est toujours possible à qui le veut d'interpréter vos erreurs comme des crimes. Il n'y a pas de preuve en faveur de l'homme en dehors de sa conscience et de sa propre affirmation. Oh, que cela est cruel! S'écria Dorothée en joignant les mains. Et ne voudriez-vous pas être la seule personne à croire à l'innocence de cet homme, quand le reste du monde croirait à la calomnie? Et puis, il y a le caractère antérieur d'un homme qui peut parler pour lui. Mais, ma chère Mrs. Casaubon, dit M. Fairbrother, souriant doucement de son ardeur, le caractère n'est pas taillé dans le marbre. Ce n'est pas quelque chose de solide et d'inaltérable. C'est quelque chose de vivant et de changeant que la maladie peut atteindre comme le corps. En ce cas, on peut le secourir et le guérir, dit Dorothée. Je ne craindrai pas de demander à M. Lydgate de me dire la vérité afin de pouvoir l'aider. Pourquoi craindrais-je? Puisque je n'aurai pas ces terrains, James, je pourrais faire ce que M. Bulstrode me proposait et me charger à sa place de l'entretien de l'hôpital. Et j'aurai à consulter M. Lydgate pour savoir au juste quelles sont, en conservant les arrangements actuels, les perspectives de bien à faire. Ce sera pour moi la meilleure occasion de lui demander sa confiance, et pour lui le moyen de me dire des choses qui pourraient éclaircir toute l'affaire. Nous serions alors tous avec lui, et nous le tirerions de peine. On glorifie toute espèce de courage, sauf le courage qu'on pourrait montrer vis-à-vis de ses voisins. Les yeux de Dorothée brillaient d'un humide éclat, et les sons altérés de sa voix réveillèrent son oncle, qui se mit à écouter. Il est bien vrai que la sympathie d'une femme peut tenter des efforts qui ne nous réussiraient guère à nous autres, dit M. Fairbrother, presque converti par l'ardeur de Dorothée. Ce qui est certain, c'est qu'une femme est tenue de se montrer prudente et d'écouter l'avis de ceux qui connaissent le monde mieux qu'elle, dit Sir James avec son petit froncement de sourcil. Quoi que vous finissiez par faire, Dorothée, vous devriez en vérité vous tenir momentanément sur la réserve et ne pas vous engager volontairement à aucun degré dans cette affaire de Bulstrode. Nous ne savons pas encore ce qui peut en résulter. Vous devez être d'accord avec moi, conclut-il en regardant M. Fairbrother. Je pense certainement qu'il vaudrait mieux attendre, répondit celui-ci. Oui, oui, ma chère, dit M. Brooke, sans savoir exactement à quel point en était arrivée la discussion, mais la rattrapant bientôt avec un afflux de paroles qui pouvait s'appliquer à tout en général. Il est facile d'aller trop loin, vous savez. Il ne faut pas permettre à vos idées de s'emporter avec vous. Et quant à se presser pour mettre de l'argent dans des œuvres, cela ne fait pas l'affaire, vous savez. Garth m'a entraîné dans des dépenses extraordinaires, avec des réparations de canaux d'irrigation, toutes ces choses-là. Je suis extraordinairement en perte avec une chose ou l'autre. Il faut que je me remonte. Vous, Chatham, vous dépensez une fortune avec ces clôtures en chaîne autour de votre domaine. Dorothée ne se soumettait qu'avec peine à ces conseils décourageants. Elle se rendit avec Célia dans la bibliothèque qui lui servait habituellement de salon. Voyons, Dodo, écoute donc ce que dit James, commença Célia, sans quoi tu te mettras dans un vrai pétrin. Ça n'a jamais manqué de t'arriver, et ça ne manquera jamais, quand tu t'entêteras à vouloir faire à ta tête. Et je trouve que maintenant c'est une bénédiction, après tout, que tu aies James pour penser pour toi. Il te laisse des plans, seulement il t'évite de te laisser rouler. Voilà l'avantage d'avoir un beau-frère au lieu d'un mari. Un mari ne te laisserait pas aussi libre. Comme si j'avais envie d'un mari, dit Dorothée. Tout ce que je désire, c'est de ne pas voir mes sentiments heurtés à chaque pas. » Et Mrs. Casaubon, encore assez mal aguerrie, fondit en larmes. « Voyons, réellement, Dodo, tu es pleine de contradictions. C'est d'abord une chose, et puis une autre. Tu avais l'habitude de te soumettre à M. Casaubon d'une façon tout à fait honteuse. Tu aurais, je crois, renoncé à jamais venir me voir si je te l'avais demandé. Sans doute, je lui étais soumise. » « Mes sentiments m'en faisaient un devoir, » dit Dorothée, regardant à travers le prisme de ses larmes. « Alors pourquoi ne peux-tu pas trouver que c'est ton devoir de te soumettre un peu à ce que James désire ?» dit Célia avec le sentiment de la valeur de l'argument. « Puisqu'il ne désire rien qui ne soit pour ton bien. Et naturellement, les hommes s'entendent bien mieux à toute chose, excepté à celle auxquelles les femmes s'entendent mieux. » Dorothée rit et oublia ses larmes. « Oui, je veux parler des bébés et de ces choses-là, » expliqua Célia. « Je ne céderais pas à James si je savais qu'il eut tort. comme tu avais coutume de céder à M. Casaubon. Chapitre 2. Après avoir calmé l'inquiétude de Mrs. Bulstrode, en lui disant que son mari avait été pris de faiblesse à la réunion, mais qu'il ne doutait pas de son prompt rétablissement et reviendrait le voir le lendemain, Lydgate rentra directement chez lui, monta à cheval et fit 3 milles en dehors de Middlemarch afin de se mettre hors de portée. Il sentait une violence déraisonnable le gagner, comme la rage qu'aiguillonne la douleur d'Épicure. Il était prêt à maudire le jour où il était venu à Middlemarch. Tout ce qui lui était arrivé dans cette ville ne semblait être qu'une préparation à cette odieuse fatalité qui venait de s'abattre comme une flétrissure sur son honorable ambition, et qui, aux yeux de la morale la plus élémentaire, devait entacher son honneur d'une marque ineffaçable. Dans ces moments-là, un homme ne peut guère faire autrement que d'être dur aux autres. Lydgate se considérait comme la victime, et les autres étaient les agents ennemis de sa destinée. Il était arrivé avec l'idée que tout irait différemment, et puis d'autres s'étaient jetés au travers de sa vie et avaient dérangé ses projets. Son mariage lui faisait l'effet d'une calamité que rien ne pouvait adoucir, et il n'osait pas aller retrouver Rosemonde avant d'avoir soulagé son cœur par cette rage solitaire, de crainte que la seule vue de cette femme ne l'exaspérât et ne le portât à des actes inexcusables. Il y a dans la vie de la plupart des hommes des moments où leurs plus nobles qualités peuvent à peine adoucir d'une ombre les impressions de leur âme ulcérée. De la tendresse de Lydgate, il n'existait plus en lui que la terreur de manquer à un sentiment si naturel à son cœur. L'émotion tendre avait disparu. Il était bien malheureux. Ceux-là seuls qui connaissent la supériorité de la vie intellectuelle, de cette vie qui a en elle une semence de pensées et de nobles desseins, peuvent comprendre la douleur de l'homme qui tombe du haut de cette activité sereine dans la lutte absorbante, épuisante pour l'âme, contre les soucis vulgaires. Pouvait-il continuer à vivre sans se justifier au milieu de gens qui le soupçonnaient de bassesse? Pouvait-il quitter en silence Middlemarch, comme s'il se retirait devant une juste réprobation? Et pourtant, comment s'y prendre pour se justifier? Car cette scène du matin, dont il venait d'être témoin, sans lui avoir rien révélé de particulier, avait suffi pour rendre la situation parfaitement claire à ses yeux. Bulstrode avait certainement redouté des révélations scandaleuses de la part de Raffles. Et Lydgate pouvait se figurer maintenant toutes les probabilités de l'affaire. Il craignait quelques révélations en ma présence. Tout ce qu'il voulait, c'était de me lier à lui par une puissante obligation. Voilà pourquoi il a passé subitement de la dureté à la libéralité. Et peut-être est-il intervenu dans le traitement du malade. Peut-être a-t-il désobéi à mes prescriptions. Je crains qu'il ne l'ait fait. Mais qu'il l'ait fait ou non, le monde croit qu'il a, d'une façon ou d'une autre, empoisonné cet homme, et que si je n'ai pas été complice du crime, j'ai dans tous les cas fermé les yeux. Et pourtant, il se peut qu'il ne soit pas coupable de cette dernière faute. Il est possible, à la rigueur, que ce changement vis-à-vis de moi ait été un attendrissement véritable de son cœur, l'effet de réflexions venues après coup, comme il me l'a dit. Ce que nous appelons à la rigueur possible est quelquefois le vrai, et c'est ce qui est absolument faux que nous trouvons le plus facile à admettre. Dans ses derniers rapports avec cet homme, Bulstrode peut avoir gardé les mains pures de tout crime, en dépit de mes soupçons du contraire. Tout dans cette cruelle situation était fait pour le paralyser. Quand même, pour se justifier, il laisserait de côté toute autre considération s'il ne rencontrait que des haussements d'épaules, des regards glacés, si on le fuyait comme un accusé, et s'il faisait alors un exposé public de tous les faits, tels qu'il en avait connaissance. Qui parviendrait-il à convaincre? Ce serait jouer le rôle d'un fou que d'offrir son propre témoignage en faveur de lui-même, et de dire « Je n'ai pas accepté l'argent comme un marché ». Les circonstances parleraient toujours plus haut que son assertion. Et puis, se mettre en avant, raconter tout ce qui le concernait lui-même, amènerait forcément des déclarations faites pour aggraver les soupçons contre Bulstrode. Il ne pourrait se dispenser de dire qu'il n'avait pas connaissance de l'existence de Raffles, lorsqu'il avait parlé pour la première fois à Bulstrode de son pressant besoin d'argent, et qu'il avait innocemment pris l'argent pour le résultat de cette communication, ne sachant pas qu'il pouvait y avoir un lien entre ce prêt et les soins donnés à Raffles. Et après tout, les soupçons sur les motifs de Bulstrode pouvaient être injustes. Mais alors se présenta à son esprit la question de savoir si sa conduite eût été absolument la même au cas où il n'eût pas accepté l'argent. Certes, si à son arrivée il avait trouvé Raffles encore vivant, en état de continuer le traitement, et qu'il eût pu imaginer quelque manquement à ses prescriptions, il eût fait une enquête sévère, et si ses conjectures s'étaient trouvées vérifiées, il se fût retiré en dépit de sa récente et lourde obligation. Mais en trouvant le malade mort, se serait-il, lui, Lydgate, abstenu de toute enquête, dans le cas où sa main n'aurait pas reçu cet argent. La crainte d'offenser Bulstrode, le doute qui pèse sur la justesse absolue de tout traitement médical, l'argument que sa méthode de traitement serait condamnée par la plupart de ses confrères, toutes ces considérations auraient-elles pesé du même poids sur sa conduite? C'était là le coin troublé de sa conscience. Tandis que Lydgate, passant en revue les derniers événements, se raidissait contre tout reproche. Sur cette question du traitement d'un malade, avec la règle qu'il s'était imposée de faire toujours ce qu'il croyait le mieux pour la vie qui lui était confiée, sur cette question, s'il eût eu toute son indépendance, il se fût montré absolument intraitable. Tandis que, dans le fait, il s'était arrêté à cet équivoque que la désobéissance à ses ordres, de quelque façon qu'elle se fût produite, ne pouvait être regardée comme coupable. Que l'obéissance à ses prescriptions avait pour l'opinion dominante tout autant de chances, au contraire, d'amener un dénouement fatal. Et qu'il n'y avait dans tout cela qu'une simple affaire de convenance. Lui qui, au temps où il était libre, n'avait cessé de faire ressortir la différence entre le doute scientifique et le doute moral. Lui qui, dans l'exercice le plus scrupuleux de ses devoirs professionnels, n'avait jamais connu que la science et la conscience. Hélas, sa conscience scientifique était tombée dans l'avilissante compagnie des obligations d'argent et des considérations égoïstes. Y a-t-il un seul médecin entre tous à Middlemarch qui s'interrogerait comme je le fais? Se disait le pauvre Lydgate dans un nouvel accès de révolte contre l'écrasement de sa destinée. Et cependant, ils se sentiront tous autorisés à faire le vide entre eux et moi, me traitant en lépreux. Ma clientèle et ma réputation sont absolument perdues. Quand même une évidence palpable pourrait me disculper, qu'est-ce que cela ferait aux heureux de la ville? Ils m'ont mis de côté comme un être souillé, et je n'en resterai pas moins amoindri aux yeux de tous. Déjà auparavant, des signes nombreux l'avaient intrigué. Il s'était aperçu qu'au moment même où il payait ses dettes et se remettait gaiement sur pied, on l'évitait, on le regardait d'un air singulier, et dans deux circonstances, il lui était revenu aux oreilles que tel de ses malades avait appelé un autre médecin. Les raisons de tout cela n'étaient que trop claires maintenant. La calomnie avait déjà commencé partout. Il n'est pas étonnant qu'avec la nature énergique de Lydgate, le sentiment désespéré d'une fausse interprétation se changea facilement chez lui en une résistance opiniâtre. Le froncement menaçant qui se montrait parfois sur son front carré n'était pas un accident dénué de signification. À l'instant même où il rentrait en ville, après cette course à cheval faite dans ses premières heures de peine aiguë, il prenait la résolution de rester à Middlemarch en dépit de tout le mal qu'on pourrait lui faire. Il n'aurait pas l'air, en se retirant devant la calomnie, de l'accepter. Il lui ferait face jusqu'au bout, et aucun de ses actes ne montrerait qu'il eût peur. Ce fut par générosité de nature, aussi bien que par énergie de défi, qu'il résolut alors de ne pas craindre de montrer dans sa plénitude son sentiment de reconnaissance envers Bulstrode. Il était vrai que son association avec cet homme lui avait été fatale. Il était vrai que s'il eût eu encore entre les mains les 1000 livres du banquier, avec toutes ses dettes impayées devant lui, il eût rendu l'argent à Bulstrode et accepté la misère plutôt que ce secours entaché du soupçon de corruption. Car, ne l'oubliez pas, il était un des plus orgueilleux parmi les fils des hommes. Mais malgré tout, il ne se détournerait pas, après en avoir reçu un service, de son semblable accablé. Il ne ferait pas le plus misérable effort pour chercher son salut en hurlant contre un autre. « Je ferai ce que je croirai bien, et je n'expliquerai ma conduite à personne. On essaiera de me réduire par la famine, mais... » Et il poursuivait sa route avec une opiniâtre résolution. Cependant, il approchait de la maison, et la pensée de Rosemonde s'imposa de nouveau dans son cœur à cette place dont l'avait chassé la lutte poignante de l'honneur et de l'orgueil blessé. Comment Rosemonde prendrait-elle tout cela? De ce côté aussi, il y avait une lourde chaîne à porter, et le pauvre Lydgate était dans une mauvaise disposition pour se soumettre à la domination muette de sa femme. Il n'éprouvait pas le besoin de lui confier le souci qui devait bientôt leur devenir commun à tous deux. Il aimait mieux attendre des événements, la révélation accidentelle, dont il ne tarderait pas à se charger.